Le titre de mon message est Le seul cœur. Le cœur uni. C'est vrai, lorsque la Bible parle du cœur, elle ne parle pas du cœur biologique. Elle ne parle pas du cœur physique, mais elle parle du centre, c'est-à-dire l'essence de l'être humain. Nos émotions, nos désirs, notre volonté, nos pensées sont toutes différentes façades de notre cœur. C'est vrai, à partir de notre cœur que nous prenons, nous faisons des choix qui vont nous pousser vers notre destinée. C'est vrai, dans notre société, tout est fait pour que l'homme, la femme, l'ado ou l'enfant soit le plus beau, soit le plus grand, le meilleur. Souvent, nous sommes dans une course contre le monde, la montre. Nous courons toujours vers la perfection. Nous courons toujours vers le succès. Et souvent, on est dans une société où l'apparence compte beaucoup. La façon comment on s'habille, la façon comment on se coiffe. On fait tout pour ne pas s'être mis à l'écart par les autres. Mais résultat, on est malheureux la plupart du temps. On est seul. Souvent on dit métro, boulot, dodo. Mais on court dans la vie, mais on n'est jamais satisfait. Il y a des tensions, ça ne va plus. Il y en a qui aussi, qui font des burn-out. Parfois on craque, on se sent incapable. Et aussi, malgré tout ça, on veut devenir des bons chrétiens. Mais on n'arrive pas. On est encore malheureux. Nombre de fois, nous n'avons pas réussi à prier régulièrement. Nous n'avons pas réussi à lire la Bible régulièrement. On se même endormi sur notre Bible. Mais on est tiraillé dans cette vie terrestre qui nous fait créer beaucoup de tensions. On est tiraillé par l'Église, par le monde, par le travail, par la famille. Et aussi, on est tiraillé entre la honte, la culpabilité, par la peur de se tromper. C'est compliqué. Ici, dans notre société, c'est dur de rester fidèle. C'est la course constante à être premier en tout et avant les autres. Souvent, je me suis posé cette question, notre style de vie ne correspond pas à la parole de Dieu, car nous voulons plaire aux hommes. Mais la parole de Dieu nous encourage de plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Avant d'aller plus loin, nous allons lire un passage maintenant dans 2 Chroniques, chapitre 25, à partir de versets 5 à 10. 2 Chroniques, chapitre 25, à partir de versets 5 à 10. Est-ce que Didier, tu peux lire, s'il te plaît?
Alors, chapitre 25.
2 Chroniques 25, à partir de versets 5 à 10.
Amatsia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et il trouva 300 000 hommes d'élite, en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde, dans Israël, 100 000 vaillants hommes pour son talent d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu feras au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amatsia dit à l'homme de Dieu, « Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amatsia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda. Ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère.
Merci. Ici, nous voyons qu'un homme se retrouve face à la colère d'une armée. Parce que ce roi de Juda, il a ignoré Dieu dans sa vie. Il a commis une grave erreur en prenant les soldats israélites. Il n'a pas cherché la volonté de Dieu dans cette affaire. Il s'est donc créé des problèmes pour lui, ainsi pour le royaume de Juda. Il a rendu colérique toute une armée et il était poussé à accepter les conséquences de leur colère. En pensant à cette armée colérique, trois questions viennent à l'idée. Je pense que la réponse à ces trois questions nous donne les instructions divines pour rester fidèles en toutes circonstances pour suivre Jésus-Christ. Donc notre première question, qui fut la cible de leur colère? Qui fut la cible de leur colère? Ici, cette armée israélienne était en colère contre le royaume de Juda, c'est-à-dire surtout contre ses rois, Amatsia. On voit aussi ici la division d'Israël après la mort de Salomon. Nous savons très bien qu'il y avait 12 tribus. Deux tribus, c'est-à-dire les tribus de Benjamin et de Juda, ont formé le royaume au sud, appelé Juda. La plupart d'entre eux ont été fidèles à Dieu. Un autre côté, les 10 tribus se sont formées au nord du royaume d'Israël, appelé Éphraïm. Mais cette nation était marquée par des grandes méchancetés, par l'infidélité envers le Seigneur. À cause des péchés et aussi à cause de leur non-croyance, c'est-à-dire non-croyance des Israélites, Juda et Israël étaient constamment en conflit l'un contre l'autre. Je me suis posé cette question. Pourquoi ce roi a fait appel à ses ennemis pour venir en aide pour cette guerre, alors qu'il savait que Dieu n'approuvait pas Israël? Nous trouvons la réponse à cette question au verset 2. Deux Chroniques, chapitre 25, verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Vous savez, ce roi avait suivi l'Éternel avec un cœur à moitié dévoué. Sa foi a vacillé. Il n'était pas vraiment stable dans sa foi. Souvent, il a essayé de faire des choses à sa manière, non pas selon la manière dont Dieu avait voulu. Nous savons très bien que Dieu veut une obéissance totale de ses enfants. La Bible nous avertit contre l'instabilité, mais elle nous encourage d'être sans réserve et entier dans notre dévouement envers lui. Lorsque le cœur est divisé entre le dévouement à Christ et l'amour aux possessions du monde, c'est toujours qui est-ce qui va gagner? C'est toujours le monde qui va gagner à la fin. C'est pour cela que c'est important de soumettre toutes choses que nous possédons à Christ. Seigneur, Dieu, il n'a pas besoin des serviteurs qui ont un cœur divisé. Nul ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Nous ne pouvons pas servir, par exemple, le maître et l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des loyautés divisées, essayant de servir Dieu et le monde en même temps. Mais ceci ne marche jamais, car nous devons faire un choix. Le psalmiste nous rappelle dans le psaume 86:11, « L'Éternel, enseigne-moi ton chemin. Je marcherai dans ta vérité, unis mon cœur à la crainte de ton nom. » C'est vrai. Enseigne-moi ton chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons juste un seul chemin, une seule voie. Mais nous avons besoin d'un seul cœur pour marcher dans ce chemin-là. Mais souvent, trop souvent, nous ressentons un cœur et un cœur. C'est-à-dire double cœur. Il y a toujours deux natures en lutte en nous. N'est-ce pas? C'est compliqué de faire des choix. Parfois, nous sommes tellement aveuglés. Nous pouvons faire partie d'une équipe ou une autre. Notre société nous pousse à faire des choix dans ce monde. C'est vrai, quand on parle d'équipe de foot, il y en a qui sont pour PSG ou Marseille. C'est compliqué de faire les choix. Israël ou Palestine, Russie ou Ukraine, Biden ou Trump, droite ou gauche. Vous voyez, tout le monde est inquiet. Mais vous savez, même les réseaux sociaux nous poussent à avoir des avis différents. Même dans les églises, parfois, on est divisé. Cela crée aussi un esprit de dispute, un esprit de contestation. Choisir de suivre Christ demande un total engagement de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre volonté. Nous ne pouvons pas avoir un cœur divisé dans notre vie chrétienne. Ici, ce roi, il avait un esprit divisé. Il attendait l'aide de l'Éternel et en même temps celui des Israélites infidèles. Au lieu de croire en Dieu pour une complète victoire, il a mis sa foi dans une force numérique que l'argent pouvait acheter. Nous voyons ici que ce roi avait 300 000 soldats pour combattre les Édomites, mais avec l'aide de Seigneur, il aurait pu vaincre plusieurs hommes et sauver son argent. Mais il a mis sa confiance dans un chiffre au lieu de la passer en l'Éternel. Choisir de suivre Christ demande un total engagement. Vous savez, chers amis, notre société, il ne veut pas des engagements. C'est pour ça qu'on a parlé concernant le mariage ce matin. On ne veut pas des engagements, on ne veut pas signer des contrats. On veut nos droits, mais aucun devoir. On veut recevoir, mais on ne veut rien donner. On veut des tablettes de chocolat, des abdos, un ventre plat, mais on était incapable de discipliner, de bien manger et faire des sports. Et on veut beaucoup d'argent, mais on ne veut pas travailler dur. On veut manger, mais on n'a pas envie de faire la vaisselle. Mais donc, il faut réapprendre l'engagement. Nous lisons dans Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle que le trouvera. Un homme fidèle, est-ce qu'il y en a beaucoup? J'ai peur de dire qu'il y a un peu du pain sur la planche. Dieu est parfaitement fidèle. Sommes-nous fidèles à nos engagements avec Dieu? Dieu n'est jamais un menteur. Dieu nous donne la force de progresser. Il faut être à l'école de l'engagement. Il faut dire à Jésus, nous avons besoin de toi, celui qui nous s'équipe. Vous savez, le terme « engagement » est souvent utilisé dans l'armée. Vous avez vu la pub de recrutement pour l'armée de terre, c'est marqué « s'engager », c'est témoigner la volonté et la fierté de servir un dessein collectif. C'est vrai, nous sommes aussi dans une guerre spirituelle. La vie chrétienne est fondée sur l'engagement. Quand on signe pour engager dans l'armée, ta vie va changer. Déjà, la coiffure change, plus de barbe. Souvent, on vient vers Jésus, on dit souvent, bénis-moi, donne-moi, guéris-moi. Mais il y a aussi un engagement. Un engagement qui va changer, qui doit changer votre vie, ma vie. Jésus appelle à changer radicalement. On vient à l'église pour recevoir, parfois comme des gens du monde. On vient à l'église quand nous avons un problème et ensuite c'est fini. Qu'est-ce qu'on donne en retour? Vous savez, l'engagement sera comme un interrupteur qui va changer ta vie, qui enclenche la puissance de Dieu. Une vie nouvelle, c'est une vie surnaturelle. Mais ici, la réponse de ce roi révèle ce qu'il y avait dans son cœur. Nous voyons ici au verset 9. Il était beaucoup plus concerné par l'argent que par la gloire de Dieu. Il était beaucoup plus concerné par l'argent, beaucoup plus que la gloire de Dieu. Ce roi, il n'était pas du tout concerné par ce qui plaira à Dieu, mais il était plutôt concerné par combien cela lui coûtera pour plaire à Dieu. Argent était plus important que l'obéissance pour ce roi. Cet incident dans la vie de ce roi nous montre aussi le prix de la désobéissance. Il voulait la victoire plus que l'obéissance. Il voulait être le meilleur. Il voulait être quelqu'un de parfait. Au final, il a souffert. Il a souffert de quoi? Il a souffert d'avoir perdu beaucoup d'argent et aussi, il a perdu toutes les bénédictions de Dieu. Je pense que vous connaissez Saül, pas seulement quand même, mais je pense que vous connaissez la ville de Saül dans la Bible. Au début, ce roi, Saül, il a marché avec Dieu. Il était un homme intègre. Et il avait de l'humilité. Son but était de devenir le premier. Dans son système de croyance, il fallait être le premier pour lui. Bien sûr que c'est faux. À cause de cela, il était blessé souvent. Quand on a un faux but dans notre vie, on est toujours blessé. En plus de ça, il n'était pas seulement blessé, il avait aussi peur. Donc il a fait quoi? Il avait une lance dans ses mains, même en table pendant qu'il mangeait. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui mange en gardant ses armes avec lui? Par exemple, ici, juste avant de couper le pain, si quelqu'un, ils disent que voilà, avant de couper le pain, il vient, il pose d'abord son revolver à côté. Là, il y a un problème quand même. Dans le temps, on utilise les lances dans les combats, pas dans les banquets. Mais ici, Saül, il était dans un faux combat. Il avait un faux but. Seulement la présence de Dieu qui pouvait le libérer de sortir de ce faux but. Mais Saül n'était pas accepté, n'a pas accepté cette idée. Donc il est mort avec l'idée. Ici, ce roi de Juda, Amatsia, il fait quoi ici? Il voulait être le plus grand. Il voulait être le plus fort. voulait être le meilleur. Mais il avait un cœur divisé. Maintenant, nous allons dans notre deuxième question. Quelles sont les raisons? Pour moi, cela semble étrange que ces soldats israélites soient en colère contre ce roi pour avoir été renvoyés chez eux. Après tout, ils ont reçu leur salaire, n'est-ce pas? Sans avoir travaillé, ils ont reçu le salaire et ils ne sont jamais fait face au danger de la bataille. On doit penser aussi qu'ils devraient être contents d'avoir échappé à cette situation. Donc, pourquoi est-il en colère? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je vais juste souligner deux raisons. La première raison de cette colère était l'orgueil. Ils étaient embrassés publiquement et personne n'aimerait être embrassé en public. C'est-à-dire que quand le roi les a renvoyés, il n'y a pas de doute, les rumeurs ont commencé à courir. Quelle sorte de soldats sont-ils? Pourquoi n'ont-ils pas tenu leur engagement jusqu'au bout? L'homme de Dieu, celui qui a dit au roi de renvoyer ses soldats chez eux, car l'Éternel n'était pas avec Israël. Vous savez, chers amis, lorsque notre orgueil est touché, notre première réponse, c'était quoi? Notre première réponse est de donner un grand coup de colère. Nous devenons défensifs. Nous devenons vindicatifs. C'est ainsi que ces soldats israélites ont répondu. Pour ces Israélites, c'était aussi l'orgueil national qui était compris dans leur colère. Pourquoi? Parce qu'ils sont Israélites et leur nation est en guerre avec Juda depuis des années, depuis de longues années. Donc, pour cette raison, ils n'aiment pas, ils n'ont pas aimé ces gens de Juda. Quand quelqu'un vient pour discipliner cette colère, nous devenons agressifs. Nous devenons défensifs. Mais il faut faire attention, parce que Satan peut utiliser ce genre d'attitude pour créer des problèmes pour nous et aussi pour les autres. La deuxième raison pour cette colère, c'était leur égoïsme. Nous savons très bien que ces hommes étaient des mercenaires. Les mercenaires se battent uniquement pour gagner de l'argent. Mais ils n'étaient pas tout concernés par la sainteté de Juda. Mais si les Édomites avaient donné 200 talents d'argent, je pense que les Israélites l'auraient déserté à Matsia et son armée en peu de temps. C'est vrai, c'est effrayant de voir dans ce monde ce que les gens sont capables de faire pour l'argent, pour de l'argent. On voit partout aujourd'hui, c'est le seul but de l'homme est de devenir riche autant qu'il peut. Mais ils feront ce qu'il faut pour faire des profits dans la vie. Ils marcheront même sur les pieds de l'autre afin d'être au niveau le plus haut. Ils n'ont pas même pas le sens de l'amour, le sens de la morale. Souvent, ceux qui ont atteint le niveau le plus haut s'aperçoivent qu'il n'y a rien de satisfaisant qui les attend au-dessus. C'est pourquoi on voit dans ce monde plusieurs personnes malheureuses. Plusieurs personnes seules qui n'ont pas de sens à la vie. Ils n'ont pas compris ou ils n'ont jamais compris que seul Jésus-Christ peut leur donner la vraie richesse. Seulement Jésus-Christ peut leur donner la réelle satisfaction. Il peut donner la vie éternelle et aussi une vie abondante. Nous avons vu deux questions. La première question, qui fut la cible? Deuxième question, c'était quelles sont les raisons? La troisième question, quelles sont les conséquences? Vous savez, toujours une colère non justifiée porte des graves conséquences. Pas seulement pour nous et aussi pour les autres. Nous voyons ici la conséquence au verset 13. Cependant, les gens de la troupe qu'Amadia avait renvoyée pour qu'il n'allait pas à la guerre avec lui firent une invasion dans les villes de Juda. Depuis Samarie jusqu'à Bethron, ils tuèrent 3000 personnes et enlevèrent un grand butin. Ici, ce roi et son armée sont partis combattre les Édomites en laissant les villages de Juda sans protection. Comme ces Israélites ne pouvaient pas se venger contre ces rois, ils se sont vengés contre des personnes innocentes. Ils ont tout ravagé, ils ont tout pris, tout ce qu'ils voulaient. Mais après avoir battu les Édomites, ce roi, il retourne. Mais il voit les dégâts causés par les soldats israélites. Il était vraiment en colère. Ce roi, il était vraiment en colère. Encore une fois, pour lui, c'est l'orgueil qui prend position. Il pensait qu'il était tellement fort. Il était tellement fier de lui après cette victoire. Il a donc décidé de combattre Israël pour se venger. Vous savez, une fois que la colère se mise à se démontrer, c'est difficile de l'arrêter. Chercher la vengeance pousse la colère à devenir incontrôlable. Lorsque cela arrive, c'est souvent les innocents qui sont pris dans cette affaire et aussi les innocents qui souffrent. C'est vrai. Ici, en voyant la vie de ce roi, on peut dire vraiment le danger de sa colère. Le danger de sa colère qui était poussé par le péché et l'orgueil. Même Dieu, malgré ses infidélités envers Dieu, Dieu il a donné la victoire pour lui. Il avait une grande victoire, mais il a continué à ignorer Dieu. Dieu a donné une grande victoire à ces rois-là. Contre les Édomites, mais qui en retour, il a remercié comment? En faisant venir des idoles de la nation qu'il venait juste combattre. Juste combattre. Imaginons adorer des dieux d'une nation battue. Ou surtout des idoles. Nous voyons cela dans les versets 14 et 15. C'est vrai, la colère de l'Éternel s'enflamma contre ses rois. Il envoya vers lui un prophète pour prononcer un jugement contre lui. Mais encore une fois, ce roi a permis sa colère d'aveugler son péché. Au lieu de confesser, s'est mis en colère contre le prophète et aussi contre Dieu. Nous lisons au verset 16. Au verset 16, nous lisons que il n'a pas écouté le conseil donné par ce prophète. Il est devenu très orgueilleux. Il a pensé même gagner la bataille sans l'aide de Dieu. Il a donc ignoré le conseil du prophète et aussi il a défié Joas, qui est le roi d'Israël. C'est vrai. À la fin, il s'est fait battu par Israël. Juda fut battu par Israël. Malheureusement, encore une fois, des innocents furent tués. Nous lisons tout ça au verset 19. Tu as battu les Édomites. Voilà, penses-tu que ton cœur se lève pour te glorifier? Ça, c'est Joas qui dit, il est en train de donner un avertissement pour ce roi. Mais malgré tous ces avertissements, il a fait quoi? Il est parti. Il est parti en pensant qu'il n'a pas besoin de l'aide, ni le prophète, ni Dieu. Donc lorsque nous nous servons de la colère et de l'orgueil pour couvrir nos péchés, cela mène toujours au problème. Si vraiment ce roi avait confessé ses péchés à Dieu en toute humilité, au lieu d'être orgueilleux, il aurait sauvé son peuple. Mais il est devenu son propre ennemi. Il est devenu son propre ennemi. À la fin, nous voyons que il était assassiné plus tard par son propre peuple. C'est vrai, chers amis, comme ce roi Amasia. Parfois, nous commettons des graves erreurs. Nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas écouter la volonté de Dieu à cause de nos péchés, peut-être à cause de notre orgueil, à cause de notre égoïsme et notre colère. Nous nous créons des situations difficiles. Après, nous cherchons nous-mêmes quelle est l'issue la plus facile pour s'en sortir. Nous avons vu trois questions ce matin qui nous donnent les instructions divines pour avoir un cœur entièrement dévoué pour Dieu. La première question, qui fut la cible? C'est vrai? Comme ce roi, peut-être nous avons un cœur divisé. Quelles sont les raisons? C'est l'orgueil. C'est l'égoïsme, c'est l'amour de l'argent. Toutes ces choses viennent du cœur. Quelles sont les conséquences? La vengeance. Il était aveuglé par son péché, il a tout perdu, il a fui assassiné par son propre peuple. Oui, chers amis, Dieu, il est capable de changer nos cœurs. Nous devons donner accès à Dieu par notre obéissance. Nous lisons dans Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Vous voulez voir Dieu là, dans votre vie? Cherchez la présence de Dieu. Cherchez cette relation intime avec Dieu. Oui, aujourd'hui, il est possible de changer les choses. Il est possible de sortir de cette fausse manière de vivre. Et aussi, aujourd'hui, nous pouvons faire ces choix, dire stop à ce monde fou qui peut polluer l'esprit, le corps et l'âme. On peut dire à Dieu, dire que, en disant que prends-moi, brise-moi et façonne-moi selon le modèle que tu as prévu, selon le modèle que tu as planifié pour chacun de nous, c'est pour moi, pour vous. Dieu, il est tout à fait. Et aussi Dieu, il peut changer ton cœur, mon cœur. Il a envie de changer ton cœur et accorder cette vie de grâce. Finalement, tu peux vivre en paix. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen.